Le débat du jour.
Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous. C'est la fin d'un système unique au monde. Il y a 6 jours, le Parti communiste chinois a annoncé l'abandon de la politique de l'enfant unique dans le pays. Une politique qui, pendant 35 ans, aura permis à Pékin de contrôler le nombre de naissances et de faire face à une démographie qui, à l'époque, était galopante. 35 ans plus tard, c'est l'heure du bilan. La décision des autorités chinoises est motivée par 2 raisons. Une population qui vieillit et une consommation intérieure qui doit être relancée. Est-ce que l'effet attendu sera au rendez-vous? Plus globalement, est-ce que la fin de la politique de l'enfant unique est une bonne nouvelle ou non pour la Chine? C'est notre débat ce soir. Et nos 2 invités à nos côtés en studio, Alice Ekman, chercheuse spécialiste de la Chine à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Claude Meyer, maître de conférences à Sciences Po, spécialiste de l'Asie, auteur du livre La Chine, banquier du monde. Bonsoir.
Bonsoir.
Claude Meyer, on va entrer directement dans le vif du sujet. Mm-hmm. Est-ce que la décision de Pékin peut redynamiser une économie chinoise qui montre depuis plusieurs mois des signes de ralentissement?
Dans l'immédiat, non. Enfin, à part, je dirais, dans le domaine des sociétés qui s'occupent de la petite enfance, etc., c'est évident qu'il y aura un regain de consommation. D'ailleurs, sur la bourse de Hong Kong, une société qui s'appelle China Child Care a pris 40%, parce que c'est évidemment une très bonne nouvelle pour les couches, etc., un biberon et autres. Ceci étant dit, là, c'est une réforme qui va porter ses fruits, par définition, dans une 20aine d'années. Hein, puisque l'économie n'est pas une science exacte, mais la démographie l'est dans une certaine mesure, et on sait que les bébés qui vont naître rentreront dans la population active dans une 20aine d'années. Donc, on reviendra sur cette question de démographie, mais dans l'immédiat, je ne vois pas très bien comment cette décision, qui est positive à bien des écarts, y compris du point de vue social, pourrait redynamiser la croissance un peu flageolante de la Chine.
Alors, ce sera une bonne nouvelle dans 20-30 ans, dit Claude Meyer. Vous êtes d'accord, Alice Ekman? Parce que ça va aussi s'accompagner d'un vieillissement important de la population.
Oui, mais je suis entièrement d'accord avec ce que disait Claude. Je pense qu'il faut relativiser à court terme la décision qui a été prise. Et aussi, dans une perspective historique, il faut se rappeler que cette décision a été importante, mais elle n'est pas révolutionnaire. Tout d'abord, il existait déjà de nombreuses exceptions.
Un assouplissement également, il y a 2 ans,
qui
avait
été décidé. Mais même avant ça,
oui.
Depuis le lancement de la politique de l'enfant unique en 1979 par Deng Xiaoping, cette politique n'a jamais été appliquée à l'ensemble de la population. Dès le départ, il y avait des exceptions en zone rurale. Les foyers ruraux avaient le droit d'avoir plusieurs enfants par famille, notamment pour aider les parents au champ. Il y avait des exceptions pour les minorités ethniques, et elles sont nombreuses en Chine. Et il y avait également récemment une possibilité de payer une taxe pour avoir le droit d'avoir un enfant supplémentaire, 2e, 3e, 4e, dans les classes moyennes supérieures. Et les foyers les plus aisés de Chine payaient déjà cette taxe aujourd'hui. Donc, première chose, c'est pas une décision révolutionnaire. Deuxième chose, comme vous l'avez dit, il y avait déjà eu un assouplissement il y a 2 ans, à l'issue du 3e plénum en 2013.
Assouplissement, je précise, voulait que, voilà, il était possible d'avoir un 2e enfant si l'un des 2 parents était enfant unique. Hein.
Exactement. Et troisième point, je pense qu'il faut mentionner quand on analyse cette décision, c'est que aujourd'hui, ce n'est pas la fin de la politique familiale de la Chine, c'est la fin de la politique de l'enfant unique, mais les couples sont aujourd'hui encore restreints dans le nombre d'enfants qu'ils peuvent avoir, puisque c'est 2 enfants et pas 3. Donc il y a quand même encore une restriction qui existe aujourd'hui.
Et de toute façon, est-ce que ça va vraiment changer les choses? On évoquait cet assouplissement de la politique de l'enfant unique. Les effets, depuis 2 ans, ont été limités sur tous les couples pouvant bénéficier de cet assouplissement. Seuls 40% disaient envisager un second enfant. Quelles conséquences finalement
15% à Shanghai.
15% à Shanghai.
Le sondage national ne reflète pas la situation dans les villes. 15% seulement à Shanghai.
Donc c'est encore moins. Déjà 40%, c'était
absolument
peu.
Absolument. Et donc, quand on demande les raisons pour lesquelles il y a cette réticence, 58% indiquent que ce sont les coûts financiers entraînés, l'absence de garderie, etc.
Alors, dans ce contexte, la fin de la politique de l'enfant unique, en quoi elle peut être une bonne chose pour l'économie chinoise?
Ça, c'est extrêmement important, à la fois du point de vue social et du ressenti de la population, d'avoir quand même une certaine libéralisation, mais surtout les perspectives démographiques sont moins grave que celle du Japon pour la Chine, mais quand même extrêmement préoccupante, au point que un démographe chinois a pu dire que la Chine risque d'être vieille avant d'être riche.
On parle d'une bombe à retardement démographique.
Oui, parce qu'il y a un effet de ciseau entre, d'une part, un taux de fécondité extrêmement faible, un 44, et un vieillissement accéléré de la population. Et c'est pour demain et surtout après-demain. Les plus de 60 ans actuellement, c'est 13%. Ça sera 34%, c'est-à-dire 250 millions de personnes en 2050. Et les plus de 65 ans, c'est 9% actuellement et ils seront 26% en 2050. Et ça, ça vient, ça signifie quoi? Ça signifie, premièrement, une diminution de la population active. Et ça, c'est déjà depuis l'an dernier. On a déjà perdu plusieurs millions de personnes actives sur le marché du travail. Et la seconde, parce que on a perdu parce que le réservoir de migrants venant de la campagne commence à s'épuiser. Et on va avoir effectivement une perspective extrêmement difficile pour les finances publiques, pour les régimes sociaux, dans la mesure où il faut savoir qu'en Chine actuellement, la protection sociale est extrêmement parcellaire, que le but c'est d'arriver à une protection généralisée en 2020. Et ça, ça va être combiné avec un vieillissement et donc un nombre de bénéficiaires beaucoup plus important.
Alors Claude Meyer, vous venez de nous faire un tableau de perspective assez complet. Alice Ekman, est-ce que cet abandon de la politique de l'enfant unique en Chine peut se retourner, à partir de ce que vient de nous dire Claude Meyer, contre Pékin?
Alors la question est de savoir si les couples vont profiter finalement de ces décisions.
Il ne semble pas, selon les prévisions pour le moment en tout cas.
Il faut bien comprendre qu'aux yeux des classes moyennes chinoises et des classes moyennes inférieures notamment, ils craignent l'augmentation du coût de la vie dans les grandes villes, qui est réelle. Et aujourd'hui, ils sont pris en tenaille entre l'augmentation, entre les frais à assurer pour leurs parents vieillissants, donc frais médicaux, compléments aux très faibles pensions de retraite en Chine pour la plupart des personnes retraitées, et leurs enfants grandissants, notamment pour assurer les frais de scolarité, qui sont en nette augmentation en Chine, notamment les frais d'inscription à l'université, à tous les niveaux, donc au niveau de licence, mais aussi master. Les frais de mariage, on oublie, mais c'est un poste de dépenses incontournable pour les parents chinois aujourd'hui, et aussi les frais immobiliers suivant le mariage. Souvent, les parents contribuent à l'achat de l'appartement pour les jeunes mariés. Donc, tous ces frais additionnés, compte tenu du fait, comme l'a dit Claude, que la couverture sociale en Chine est très, très faible, beaucoup de parents préfèrent avoir un enfant et lui offrir toutes les chances de réussir plus tard, y compris d'aller dans une bonne université, d'avoir des cours de langue, de pouvoir partir à l'étranger. Un enfant qui risque de réussir dans un monde académique et professionnel extrêmement compétitif en Chine, plutôt que plusieurs enfants qui ne pourraient pas jouir des mêmes services à terme. Donc on observe.
Ça veut dire que les autorités chinoises doivent finalement avoir un accompagnement financier avec cette fin de la.
C'est-à-dire que si cette décision n'est pas accompagnée d'une extension significative des services sociaux, de la couverture maladie, etc., l'impact sur la consommation des ménages, à mon avis, restera assez limité à court et moyen terme.
Claude Meyer, est-ce qu'il n'y a pas aussi les mentalités à faire évoluer sur ce sujet-là?
Oui, effectivement, parce que ces sondages indiquent une réticence des parents. Pour des raisons financières, mais il y en a certainement d'autres. Alors là, on ne les énumère pas dans le sondage. 58% disent que c'est essentiellement pour des questions financières et d'organisation. Il y a le fait aussi, sans doute, d'une forme, j'allais dire, d'hédonisme. C'est-à-dire, je pense que la classe moyenne chinoise, c'est moins valable pour les campagnes. La classe moyenne chinoise veut profiter de cette moyenne prospérité qu'on leur promet depuis des années. Et que, élever un enfant en plus peut effectivement sembler pas tellement attrayant. Il y a un autre élément par rapport auquel je réfléchissais pendant que vous parliez, c'est le fait que on a déjà une incidence sur ce vieillissement de la population et du point de vue économique et aussi le tarissement, si j'ose dire, du réservoir de main-d'œuvre provenant des campagnes, à savoir que l'offre de travail se raréfiant, toute proportion gardée. Ça entraîne, en fonction de la loi de l'offre et de la demande, des augmentations de salaire qui ont été extrêmement importantes depuis maintenant 7 à 8 ans, de l'ordre 12, 13, 14%. Ce qui fait que la Chine n'est plus compétitive sur toute une série de produits bon marché, que maintenant, non seulement elle n'est plus compétitive, mais elle cherche à délocaliser. Ça, c'était tout à fait le mouvement du Japon des années 80. Donc, cette question démographique est absolument centrale pour la Chine. Et j'indiquais qu'il faut attendre 20 ans. C'est pour ça que cette réforme est bonne, mais elle vient tard et beaucoup trop tard.
Mais en même temps, il faut attendre 20 ans, vous dites, et à partir de 2030, selon les estimations, il devrait manquer 24 millions de travailleurs chinois dans les entreprises.
Oui. Oui, alors là, il faut tenir compte, effectivement, de... Là, c'est à 20 ans, là, la démographie ne peut pas quand même... Elle peut...
Il faut plus que 20 ans, alors. Il faut attendre encore plus longtemps. Dans combien de temps on recevra les fruits de la décision de la fin de la politique de l'enfant unique?
Moi, je ne sais pas comment a été calculé le pourcentage que vous indiquez, ou le nombre de travailleurs, parce qu'il y a des tas d'autres paramètres que celui du nombre de personnes en âge de travailler. Mais effectivement, ça va prendre du temps. Donc cette réforme, elle est bienvenue à la fois du point de vue économique et du point de vue social, mais elle arrive trop tardivement et c'est un petit peu étonnant en fonction, je dirais, de la très grande capacité des dirigeants chinois à anticiper qu'elle vienne aussi tard. Et elle vient tard à cause de blocages. Et je me demande, et là j'ouvre un autre paragraphe ou un autre aspect, je me demande si elle vient maintenant n'est pas aussi le signe de la fin d'un cycle. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que cette politique avait été mise en œuvre par Deng Xiaoping en 78. Et Xi Jinping, qui effectivement se voit comme l'héritier de Mao et de Deng Xiaoping, mais surtout de Mao, d'une certaine façon, peut vouloir, je ne sais pas, c'est une hypothèse, marquée de son empreinte et l'ouverture d'un nouveau cycle qui est véritablement le sien.
Alors c'est intéressant, on va effectivement y revenir, mais je voudrais avoir votre avis, Alice Ekman, sur cette idée. Effectivement, il y a 10 ans, des démographes avaient prévu une réduction de la main-d'œuvre à l'horizon 2035. Mmh. Sur cette idée d'une décision trop tardive des autorités de Pékin, est-ce que vous êtes d'accord avec Claude Meyer?
Bah, disons qu'ils avaient effectué des tests en zone pilote, comme ils font déjà souvent dans différents villages, provinces, comtés chinois, avant d'expérimenter, d'agrandir, de prendre une décision au niveau national. Et donc, ils avaient pris le temps de voir justement les conséquences d'un tel assouplissement. Ils avaient noté que les conséquences n'auraient pas été finalement majeures. C'est-à-dire qu'ils avaient noté dans des villages tests que même sans politique d'enfant unique, les foyers chinois tendaient à avoir finalement assez peu d'enfants. Donc ils avaient bien conscience qu'il fallait assouplir, mais ils avaient aussi conscience que cet assouplissement n'allait pas vraiment modifier la donne soudainement. Par rapport à ce que dit Claude, je suis d'accord sur le fait que Xi Jinping veut imposer sa marque et veut, on voit un changement de rythme, un changement de cap.
Sur l'analyse politique de cette décision.
Voilà, au cours des 3 dernières années. Par contre, je suis pas sûre que c'est spécifiquement sur cette décision-là. Parce que sous Hu Jintao, déjà, il y avait eu des assouplissements. Et donc, ce serait difficile pour lui de se différencier en poursuivant les assouplissements qui avaient déjà été menés par son prédécesseur. Mais c'est sûr qu'il se démarque dans d'autres domaines de manière extrêmement claire. On voit la consolidation du pouvoir de politique intérieure et de politique extérieure aussi. Il est plus engagé. Et on voit aussi une érosion du processus de décision collective à haut niveau au sein du parti. Donc ça, c'est une réalité. Ensuite, concernant les enjeux à long terme, je pense, bien sûr, incontestablement, la baisse de la population active est un enjeu majeur, mais je pense que encore plus important, encore plus difficile à résoudre pour le gouvernement chinois est le vieillissement de la population aujourd'hui. Tout simplement le vieillissement, quelles que soient les conséquences en termes de main-d'œuvre. Aujourd'hui, fin 2014, la Chine comptait déjà de 200 millions de personnes âgées. Enfin, personne de plus de 60 ans. On assiste au développement des pensions de retraite, mais elles sont encore très faibles. Et en zone rurale, à quelle fois elles sont inexistantes, totalement inexistantes. On est encore aujourd'hui au stade de l'enregistrement des personnes sur des fichiers pour qu'ils puissent bénéficier de la sécurité sociale à terme. Donc il y a vraiment un retard dans ce domaine-là. La question du financement se pose, alors que les gouvernements locaux sont endettés. Et la question aussi de l'âge moyen de la retraite, qui aujourd'hui en Chine est en dessous de 55 ans.
Sur cette question, effectivement, des retraites, Claude Meyer.
Moi, je suis, si on résume, cette réforme, elle est sans doute tardive, et de mon point de vue, elle est partielle. Et je m'étonne qu'il n'y ait aucune indication du comité central sur ce sujet extrêmement important, parce qu'il y a l'âge de la retraite. Et c'est évident que quand on constate une diminution de la population active, il faut encourager les gens à travailler plus. Or, la retraite en Chine arrive relativement tôt. C'est 60 ans pour les hommes, 55 ans pour les femmes fonctionnaires.
Mais avec la fin de l'enfant unique, il n'y a pas une décision de bouleverser ou de modifier cet âge.
Non, ce n'est pas mentionné. Enfin, vous savez, j'ai lu les dépêches comme tout le monde, mais c'est vraiment lapidaire. On saura tous les détails en mars après l'Assemblée populaire. Donc là, on ne peut pas trop se prononcer. Mais je pense que s'il y avait eu quelque chose, ça aurait été d'une certaine façon annoncé ou en tout cas implicitement indiqué. Or là, c'est l'autre réforme nécessaire pour effectivement, si vraiment la population active est en train de diminuer, le temps que effectivement ces bébés deviennent aient l'âge de travailler, que les personnes de 60 ans ou 50 ans, 55 ans dans certains cas, continuent à travailler un peu plus longtemps, quoi.
On a évoqué l'évolution des mentalités par rapport à cette idée d'avoir un deuxième enfant. On a évoqué le vieillissement de la population. Est-ce que, pour globaliser, pour généraliser, la fin de la politique de l'enfant unique en Chine risque d'entraîner finalement un changement profond du modèle économique de Pékin, Alice Ekman?
Ben non, parce que il faudrait que plusieurs réformes soient conduites en même temps pour qu'il y ait un changement profond.
Ce que disait Claude Meyer, notamment sur les retraites.
Tout dépend quel objectif. Si l'objectif, c'est de stimuler la consommation des ménages, on voit bien que cette décision n'est pas suffisante parce qu'il faudrait aussi un développement de la couverture maladie.
Une aide financière.
Un sentiment de stabilité au sein de la population chinoise pour pouvoir économiser moins et consommer plus et savoir que l'État sera là aussi en cas de pépin, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour la majorité des foyers chinois, même les foyers qui disposent d'un revenu confortable. Ils économisent encore une part significative de leur revenu disponible. Donc, si l'objectif, c'est de stimuler la consommation intérieure, sa décision seule ne suffira pas. Si l'objectif, c'est de lutter contre le vieillissement de la population, on en a parlé, l'enjeu est tel que ce sera seulement à long terme que cette politique pourra avoir des conséquences positive dans ce domaine et encore une fois il faudra développer la couverture maladie, les pensions de retraite, les maisons de retraite, même techniquement, logistiquement, il y a encore énormément de travail à faire dans de nombreux domaines et surtout le point le plus important, c'est que compte tenu du coût de l'enfant, du coût de l'enfant supplémentaire, les foyers hésiteront pour avoir deux ou trois enfants à court terme. Donc il faudra, à mon avis, c'est encore plus, enfin il y a une génération à attendre, même peut-être encore de là.
Oui, Claude Meyer, pour conclure notamment sur ces mentalités qui doivent évoluer sur l'idée d'avoir un deuxième enfant.
Si on résume, je dirais le but de la réforme, c'est de maintenir le niveau de la population active, et donc là je m'étonne effectivement qu'il n'y ait rien pour les retraites, et de la renouveler. Et je crois que ça, c'est un point extrêmement important pour ces futurs travailleurs qui seront donc plus jeunes, mieux formés, etc. Extrêmement important. Pourquoi ? Parce que l'objectif de la Chine, c'est évidemment le relais de sa production industrielle et de ses exportations à travers des biens de haute valeur technologique importante.
Et en relançant le marché intérieur chinois.
Absolument.
Merci beaucoup, Claude Meyer, maître de conférence à Sciences Po, spécialiste de l'Asie, auteur du livre « La Chine banquier du monde. Merci Alice Ekman, chercheuse spécialiste de la Chine à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Merci à vous d'avoir suivi ce débat sur RFI. Restez à l'écoute. Dans 30 secondes, le journal en français facile.